Et notre invitée a consacré sa vie au piano, à la musique, aux autres. Elle voit son métier comme une profession de foi. Elisabeth Sombart, bonjour.
Bonjour Karine.
Tout d'abord, j'aimerais vous entendre. Vous venez d'entendre les propos du professeur Bernard Schumacher sur la contemplation, le lâcher prise. Vous qui donnez régulièrement des récitals dans des EMS, qui rencontrez les personnes âgées. Que vous disent les aînés que vous rencontrez?
C'était très très beau ce que j'ai entendu là, parce qu'il a réussi à dire en deux minutes tant de choses importantes. Ce qui me frappe toujours avec les aînés, c'est leur capacité à vivre à la fois les choses dans une relation directe. Hein, ils écoutent, libres de tout savoir, de tout jugement, mais en même temps, ils n'ont pas oublié leur passé et ils se mettent en relation. Ils me disent mais ma maman jouait ça quand j'étais petite, et on se rend compte qu'ils restent petits, et on reste tous petits. Hein, et c'est cet enfant, je crois qu'on doit préserver à l'intérieur de nous-mêmes, cet enfant qui joue finalement pas avec tous les cadeaux et tous les objets, mais avec la jolie ficelle de couleur. Et ce qu'il disait de très juste, ce professeur, c'est que l'essentiel est ailleurs. Hein, et cette relation directe aux choses. Et ce que les aînés nous apportent, nos grands-mères, c'est qu'ils connaissent pas l'internet, ils connaissent pas les jeux vidéo, et donc ils nous permettent comme une espèce de souffle d'oxygène de regarder encore l'automne, les feuilles, les couleurs, hein, des choses simples. Mais
cette musique classique, vous dites qu'elle est accessible à tous, hein, même en prison, puisque vous allez dans les EMS et également dans les prisons. Comment réussir à capter un auditoire plutôt étranger à cet univers musical? Comment faites-vous?
C'est qu'en fait, la musique classique touche le cœur dans une vraie fraternité. Et je dis souvent qu'il y a eu un mensonge institutionnalisé qui est de penser que la musique classique appartient à des gens cultivés, voire riches. En réalité, c'est juste pas vrai. Parce que ce qui est universel au sens profond de ce terme est justement quelque chose qui appartient à tous. Et le but, c'est de rendre ça. Et vous savez, quand vous allez en prison, ils découvrent tout à coup dans cette musique une dimension de verticalité. Ils disent, on s'est évadé pendant une heure, on a été porté dans un autre monde. Et cet autre monde, c'est celui justement dont parlait ce professeur, que nous portons en nous et qui est au fond éternel.
Vous-même, la première émotion ressentie à la découverte du piano, vous étiez toute petite, vous aviez 7 ans. Vous avez pris conscience d'un pouvoir de consolation éternelle de la musique, c'est bien ça pour
vous?
Oui,
c'est vrai. Je pense que quand on parle de consolation, il y a aussi la joie, parce que ça va ensemble, c'est la même médaille. Mais souvent l'impression qu'on est dans un apostolat comme ça de la consolation, et que quand on voit des prisonniers, des handicapés, des vieilles personnes comme ça qui ont une larme qui coule, c'est une larme pas seulement d'une nostalgie, mais d'une nostalgie qui se rappelle ou qui espère cette joie.
Vous auriez pu mener une grande carrière de soliste uniquement, ne jouer que dans les plus grandes salles du monde, mais vous avez choisi un autre chemin. Est-ce qu'on peut le voir aussi comme un chemin de croix?
Elles sont belles, vos questions. Le chemin de croix, c'est... Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire des étapes dans lesquelles on a le droit de tomber et de se relever, dans lesquelles on développe et on enrichit son être intérieur. Et ça, c'est un des grands cadeaux de la musique classique, de nous permettre de faire ces gammes intérieures. Hein. Pourquoi? Parce que la musique classique est un chemin qui nous amène vers ce silence intérieur. Les sons sont basés sur le silence et retournent au silence. Hein, et donc, la musique n'est pas un but en soi. Elle est ce moyen vers lequel l'homme peut retrouver en son sanctuaire intérieur cette paix et cette joie dont on parlait tout à l'heure.
Et vous avez fondé, il y a 15 ans, la Fondation Résonance. Le siège est à Morges. Vous offrez des cours gratuits, sans concours d'entrée, pour tous les âges. Mais il y a une autre étape qui va être franchie dans quelques semaines. Vous allez inaugurer en Suisse le premier centre international d'études de la pédagogie résonance. En quoi consistera-t-il?
La pédagogie résonance, c'est l'étude de la phénoménologie de la musique. Alors à la fois la phénoménologie du son et la phénoménologie du geste. Parce que là encore, l'idée, c'est de porter la musique dans les endroits de solidarité, mais dans l'exigence de cette pédagogie. Et qu'est-ce que la phénoménologie de la musique ? En une phrase, on peut dire que c'est une autre manière d'écouter et de mettre en relation les sons pour vivre l'unité, hein, pour pouvoir les restituer dans cette autre dimension qui n'est plus seulement chronologique, mais qui appartient à ce temps musical de l'unité. Alors il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de lois. C'est un parcours qui avait été initié par Chilibida, qui est en Sermet, bien sûr.
Qui était votre maître, d'ailleurs.
Qui était mon maître, oui. Et que nous avons développé depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est vrai que cette manière d'écouter, cette manière d'entrer en relation avec les sons induit aussi une autre manière d'être, dont par exemple celle de partager au plus grand nombre dans une sorte de grâce et de gratuité.
Et cette méthode, est-ce qu'elle était moins acceptée il y a 30 ans ? On a l'impression que maintenant, vous l'avez fait découvrir un peu partout dans le monde et qu'aujourd'hui, on la considère un peu plus sérieusement.
Oui, oui. On est peu de disciples du maître, mais voilà, la phénoménologie musicale n'est plus quelque chose de totalement inconnu. Et je me souviens, au début, on disait, mais vous êtes une secte. Je disais, on est tous sauf une secte, c'est même une science, hein, la phénoménologie de la musique.
Oui, vous dites que c'est une science, d'ailleurs.
Hein. Mais c'est une science, oui.
Et vous avez étudié, enfin, ça a été étudié à l'EPFL, vous avez donné des cours.
Oui, on a beaucoup de cours. On a un master à Rome, dans notre filiale. On a aussi toute l'étude avec l'orchestre, comment entrer dans cette transparence des instruments à cordes, dans cette écoute de la phénoménologie. Et puis, il y a aussi toute la phénoménologie du geste, parce que à quoi sert de bien phraser si on n'a pas le geste adéquat ? Là aussi, il faut trouver l'unité. Et finalement, vous voyez, le travail à l'instrument, quel que soit l'instrument, est une vraie rencontre entre le corps et l'âme, justement pour restituer cette vérité.
Elisabeth Sombart, vous donnez environ 200 concerts par an dans le monde. Hier, vous étiez à Puy-Doux, puis prochainement, vous serez au Théâtre de Beausobre à Morges. On pourra découvrir la vie de Chopin à travers ses nocturnes. Alors, que disent ces nocturnes ?
Pour moi, les nocturnes de Chopin, c'est l'échelle de Jacob, puisque vous avez parlé du chemin de croix. Parce que on voit bien que toute sa vie, Chopin, et sa courte vie, puisqu'il est mort à 39 ans, il a composé son premier nocturne, il était encore à Varsovie, il avait 17 ans. C'est d'ailleurs un des plus profonds. On voit là que l'âge humain n'a rien à voir avec l'âge de l'âme. Et puis, toute sa vie, il les a développés et jusqu'au dernier qu'il a écrit vraiment quelques mois avant sa mort. Et on voit bien, et c'est intéressant de le montrer, je crois, comment on va le faire avec Jean-Marc Aymond, qui va raconter sa vie, alors pas seulement les anecdotes, mais aussi vraiment ce développement intérieur, pas seulement psychologique, mais aussi de son âme, même si on ne parle pas de l'âme de quelqu'un, mais tout de même, on voit bien dans ses nocturnes qu'il y a une évolution. Et par exemple, dans le nocturne numéro 17, c'est extraordinaire. Il y a un moment que personne n'avait fait jusqu'alors et que personne n'a refait après lui. Un moment où on a l'impression qu'il nous porte dans une sphère déjà de l'au-delà.
Merci Elisabeth Sombart. Le concert, c'est le 15 décembre. Il nous reste quelques secondes. Je voulais absolument écouter le premier nocturne de Chopin. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Quelques notes du premier nocturne de Chopin.